Voilà, j'aimerais vous lire juste deux versets. Colossiens 2, et les versets 12 et 14, et puis Marc 6, verset 3. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. Voilà cette croix, cette résurrection que nous bénéficions en lui, en Jésus-Christ. Et il est dit aussi un peu plus loin, verset 14, il a effacé l'acte rédigé contre nous, contre vous, contre chacun d'entre nous, dont les dispositions nous étaient contraires, il l'a supprimé en le clouant à la croix. Amen. Cette petite croix, il y a une grande croix là-bas, si jamais vous voulez une plus grande croix, on en a assez. Voilà. Mais elle est belle celle-là, vraiment avec ses plantes et cette lumière qui jaillit sur cette croix. Et ces très beaux vitraux aussi. Est-ce qu'on peut juste applaudir l'équipe de déco? Ils sont magnifiques, bravo. Merci beaucoup. Vous avez vraiment une créativité très belle et qui met en valeur vraiment ce jour. Et on va lire aussi dans Marc 6, verset 3, « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Jude et de Simon, et ses sœurs ne sont-ils pas parmi nous ? N'est-ce pas le charpentier et la croix ?» Voilà ce que j'aimerais vous faire réfléchir ce matin, en ce jour merveilleux. Vous savez, quand un charpentier regarde un arbre, il y voit toutes les possibilités qu'on peut faire avec cet arbre. Vous êtes d'accord ? Hein ? Pour ceux qui peut-être travaillent le bois ici, qui ont la chance de faire ce travail, je suis émerveillé par ces gens qui, d'un morceau de bois, font émerger quelque chose d'à la fois beau ou d'utile. Et c'est assez impressionnant. C'est pour ça que quand j'avais 15 ans, 14 ans, je me suis lancé dans un apprentissage de menuiserie. C'était un métier qui me fascinait. Mais quand un botaniste regarde un arbre, qu'est-ce qu'il voit ? Tout de suite, il peut voir tout ce que peut représenter un arbre. Vous savez qu'on sait qu'aujourd'hui, les plantes, les différentes arbres, tout ça communique entre eux, il paraît maintenant. On a découvert des moyens de communication, les champignons, tout ça, il y a tout un monde. Et il va voir tout ça. Il va voir tout ce que représente l'arbre aussi, l'essence de cet arbre. Combien d'années il a fallu, comment il s'est développé, les bourgeons. Donc il va voir tout ça. Et quand un poète regarde un arbre, qu'est-ce qu'il voit ? Peut-être qu'il va voir sa beauté et ça va l'inspirer pour faire une poésie ou une chanson face à la beauté ou à la grandeur de cet arbre. Et Jésus était charpentier. Jésus, son métier, c'était de travailler ce bois. Et bien avant que ce soit les clous qui le tiennent, c'est lui qui tenait les clous pour faire ce qu'il devait faire avec. Mais un jour, ce travail-là du bois s'est arrêté. Il a déposé son tablier, il a déposé son marteau, il a déposé son niveau, son compas, pour faire un autre travail. Et il a quand même continué de travailler avec du bois, le bois de la croix. Et il en a fait quelque chose de plus grand. Il en a sorti quelque chose, il a vu quelque chose avec ce bois de la croix, une œuvre spirituelle sur laquelle j'aimerais m'arrêter ce matin. Et j'aimerais voir avec Jésus ce qu'il a vu et les quatre choses qu'il a produites avec le bois de la croix. La première des choses qu'il a vues, c'est, et qu'on peut faire avec du bois, c'est une balance en bois, une balance pour peser nos âmes. Quelle est la valeur de notre âme, de notre personne ? Quelle est la valeur d'une personne ? Vous savez que dans certains pays et dans certaines époques de l'histoire, la valeur d'un être humain ne valait pas grand-chose. Et déjà au temps de Jésus, hein, du temps des Romains, ça ne valait pas grand-chose. Ce n'est pas comme aujourd'hui. Hein. C'est pour ça qu'on qualifiait cette époque de période barbare, mais aujourd'hui, on voit encore cette barbarie. On voit encore l'exploitation humaine. On voit qu'aux yeux de certaines personnes, leur âme, leur vie ne valent pas grand-chose. Mais Jésus-Christ a dit que notre âme, notre personne, vaut plus que le monde entier. vaut plus que le monde entier. C'est ce qu'il va dire dans Marc. Il va dire, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme ? Et Jésus-Christ a montré la valeur de chacun et chacune d'entre nous ici présents. Parce qu'il a donné sa vie, il a pesé nos vies, il a vu qu'elles avaient de la valeur et il a donné sa vie pour que nous puissions vivre, pour sauver nos âmes. Amen. C'est notre Créateur qui a estimé que la valeur de nos âmes avait un grand prix. Pour savoir ce que vaut une personne, vaut une âme, allez voir une maman. Et essayez d'aller vers, surtout si en plus c'est son premier enfant, enfin tu me dirais première, deuxième, troisième, et dites-lui, proposez-lui d'échanger quelque chose contre son enfant. Fût-ce le monde que vous auriez dans les mains, essayez voir. Quel va être son choix ? Il va être instantané. Jamais, jamais son bébé a plus de valeur. Et la Bible nous dit que Dieu nous aime tellement. Dieu voit tellement qui on est, la valeur qu'on a. Il a une tendresse plus même encore que la tendresse d'une mère pour son enfant, ou en tout cas tout autant. Il va dire dans Ésaïe, Dieu qui parle, l'Éternel, Dieu cite le peuple d'Israël, l'Éternel m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Et le Seigneur lui répond, une femme oubliée, tel son nourrisson, n'a-t-elle pas compassion du fils de ses entrailles ? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Quelle promesse ! Je t'ai gravé sur mes mains. L'amour de Dieu est tellement grand parce qu'il a vu et il voit aujourd'hui ce que tu vaux. Et si tu regardes à la croix, tu regardes à l'amour de Dieu et à ce qu'il voit et ce que tu vaux. Tu pèses, tu as du poids. Comme dans la balance, tu as du poids, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. On dit que l'autruche est un animal qui a des mœurs bien particulières. La mère abandonne ses petits, en tout cas d'abord ses œufs, qui sont enterrés dans le sable chaud, et qui après éclos, et elle laisse ses petits se débrouiller. Alors ce n'est pas nos mœurs, à nous, les êtres humains. On a du mal à imaginer qu'une maman abandonne son enfant. Malheureusement, dans l'histoire, on le voit que dans des situations extrêmes, des situations difficiles, ça s'est passé. Ça s'est passé de voir une maman contrainte par la force des choses d'abandonner, on le voit, devant un orphelinat, devant une maison, dans une situation particulière. Quel choix terrible pour une mère de vivre cette situation, d'abandonner son enfant. Et je pense qu'elle l'oubliera jamais. Elle y pensera tout le temps. Elle se le reprochera sans doute. Elle n'oubliera jamais. Peut-être ce sera une culpabilité qu'elle portera. Quel choix difficile. Mais j'ai envie de dire, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, son amour nous atteindra toujours. Rien ni personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Amen. Si tu veux voir une preuve de l'amour de Dieu, alors regarde à la croix. Voilà une preuve de l'amour de Dieu. Dieu a tout fait pour que rien ni personne, aucune conjoncture, aucune situation, que ce soit économique, spirituelle, tout ce que vous voulez, ne puisse aujourd'hui nous séparer de son amour. Parce que depuis le jardin d'Éden, depuis qu'il crie dans le jardin, « Adam, où es-tu ? » Il court à la recherche de ses créatures. Alors, regarde à la croix. Paul nous dit ceci, et ça nous a été rappelé tout à l'heure, Floriane, par ce verset que tu nous as lu dans Romains, que j'avais écrit aussi. « Dieu nous prouve son amour envers nous. » Alors, j'ai un peu la vieille traduction, Floriane, désolé. Elle était mieux, la tienne. « Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Voilà, la croix, c'est ça la croix. c'est la balance où Dieu a pesé la valeur de notre âme. Il a montré avec cette croix qu'elle a du poids à ses yeux. Alors, laissons aussi à notre âme tout le poids qu'elle a aux yeux de Dieu. Tellement on peut se dévaloriser, tellement la société peut nous dévaloriser, parce qu'on n'est pas assez compétitif, parce qu'on n'est pas assez si, et parce qu'on est mesuré face aux critères que la société veut nous mesurer, ou que les gens autour de nous veulent mesurer. Mais le critère de Dieu, c'est que nos vies, nos âmes, ont du poids et de la valeur. Alors, croyons ce que Dieu nous dit ce matin. Regardons la croix. Et que, quelle que soit notre situation, quelles que soient nos vies, quels soient les mensonges peut-être qu'on a dit sur nous, nous voulons, et je veux moi personnellement ce matin, Seigneur, donner du poids à mon âme, comme toi tu as donné du poids et de la valeur à mon âme. Mais il y a une chose que je ne veux pas donner du poids dans ma vie, c'est le péché. C'est le péché. Et c'est la deuxième chose que le charpentier a vu dans le bois de la croix. Il a vu dans ce bois un cercueil pour y ensevelir le péché pour toujours. Le péché. Un mot qui veut dire beaucoup de choses. Et quand on pense au péché, je pense à quelque chose qui détruit en général. Je compare souvent le péché au cancer. Vous savez, le cancer, c'est quelque chose qui ronge, qui peut défigurer, qui peut faire souffrir, qui peut tuer. Et le péché est un cancer. Et nous devons avoir une haine. Nous devons être en colère, justement, contre ce péché. Pas contre nous-mêmes, mais contre ce péché. Quand on voit ce qu'il fait dans les vies autour de nous, ce qu'il fait dans le monde, ce qu'il produit, le fruit du péché, ce qu'il défigure, ce qu'il déshumanise autour de nous. Et on doit encore plus haïr le péché quand on voit ce qu'il a fait à Jésus-Christ, à la croix. Jésus-Christ, c'est Dieu qui descend, qui vient à notre rencontre en humanité, qui marche à notre rencontre, qui marche dans les rues de Galilée, dans les chemins de Galilée, et qui annonce une bonne nouvelle, qui a une parole pleine d'amour, de compassion, un homme bon, un homme qui guérit, un homme qui libère. Et cet homme-là a été battu. Cet homme-là a été rejeté. Celui qui a accueilli a été rejeté. Cet homme-là a été brisé. Il a dégouliné de sang. Et déjà dans Ésaïe, cela a été annoncé à propos de Jésus, où il est dit dans Ésaïe 52, verset 14, « Beaucoup en le voyant avaient été horrifiés, tant son visage était défiguré, tant son aspect n'avait plus rien d'humain. » Voilà ce que fait le péché. Il tue, il déshumanise, il fait souffrir. Voilà ce qu'il a fait à Jésus-Christ. Donc si on regarde à Jésus-Christ, on regarde à la croix et on voit ce que le péché a produit sur Christ. Mais on voit aussi ce que le péché produit sur nos vies, sur nos péchés. Donc quand on regarde à la croix, non seulement on pense à ce Jésus qui lui était sans péché, a subi notre péché, notre souffrance finalement. Et nous regardons à la croix et nous regardons aussi à nos propres péchés. On dit qu'il y a beaucoup de choses qu'un homme ne peut pas emmener quand il meurt. Vous savez, quand on meurt, on ne peut pas vraiment emmener grand-chose avec nous, vous êtes d'accord, hein? Dans le cercueil, justement. Qu'est-ce qu'on peut emmener dans un cercueil? On ne peut pas emmener nos richesses, on ne peut pas emmener nos biens, on ne peut pas emmener nos possessions. On peut emmener que nous-mêmes. que qui on est, en fait, quand on meurt. Et quand on est dans ce cercueil, on peut emmener que les choses bonnes et les choses moins bonnes qu'on a faites dans nos vies. C'est la seule chose qu'on emporte avec nous. Et le reste, c'est nos enfants qui en profitent ou des fois qui héritent d'autres choses. Mais voilà un petit peu la situation de ce qu'on peut emmener avec nous. Pas grand-chose. Mais ce Jésus-là, lui qui était dans ce cercueil, lui, il était sans péché. Il n'avait que des bonnes choses, fait des bonnes choses. Donc, il n'a pu emmener avec lui que nos péchés. Il y a mis nos péchés dans ce cercueil. Et c'est ce qu'il a emporté avec lui, loin de nous. Jésus, le charpentier, a fait un cercueil pour emporter avec lui, loin de nous, nos péchés. C'était annoncé encore par les prophètes dans Michée 7, verset 18. Qui est Dieu comme toi, pardonnant la faute et passant sur le crime en faveur du reste de ton héritage? Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la bienveillance. Il aura encore compassion de nous. Il mettra nos fautes sous ses pieds et tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. Quelle grâce! Merci Seigneur d'avoir pris nos péchés et les avoir éloignés de ma vie. Et s'ils reviennent, Seigneur, je veux regarder à ta croix. Je veux regarder à ta croix. Et je veux être en colère contre ce péché qui est là. Et je veux que tu le prennes et que tu l'éloignes de ma vie. Voilà le travail de Jésus le charpentier. Une troisième chose qu'un charpentier voit au travers du bois et que le charpentier de Nazareth voit au travers du bois de la croix est une échelle en bois, pour que le pécheur puisse monter au ciel. Il y a plein d'autres choses qu'on pourrait voir, hein, mais je vous emmène dans ce que j'ai vu aujourd'hui. Cette échelle, j'espère que vous les visualisez bien, cette échelle en bois. Je ne sais pas s'il y en a encore beaucoup des échelles en bois aujourd'hui. Cette échelle représente ce salut que l'homme ne peut pas atteindre par ses propres capacités. Mais c'est un don de Dieu. C'est cette échelle qui descend du ciel. On voit que dans l'histoire de l'humanité, l'homme a essayé d'atteindre Dieu de différentes manières. Même à un moment donné, il a voulu construire une tour pour atteindre Dieu. La fameuse tour de Babel. Et cette tour-là n'a pas réussi à atteindre le ciel. N'a pas réussi. Ça a été un échec. Et ce salut de Dieu est un don de Dieu qui descend du ciel pour que nous puissions y accéder. C'est ce voile, comme on l'a chanté tout à l'heure, qui a été déchiré, qui n'est pas déchiré de bas en haut, mais de haut en bas. Vraiment une œuvre de Dieu. Alors, même si cette échelle représente cet accès, finalement, au ciel, à la présence de Dieu, au salut, malgré tout, il faut y monter. Il faut... C'est pas ce chemin vers le ciel, c'est pas un escalator, hein, un escalier roulant. Là. On est là, et puis on se laisse monter. Tranquille, rien à faire. Ce n'est pas non plus le magnifique escalier en marbre, tout ça, ou large et spacieux, on peut tous monter en même temps. Non, l'échelle, c'est différent. L'échelle, c'est une ascension, ça parle d'ascension, ça parle d'effort. C'est une ascension déjà solitaire. On est seul sur cette échelle. On la monte barreau après barreau, étape après étape. C'est difficile de monter une échelle pour ceux qui l'ont fait dernièrement. Et avec les années, on devient de plus en plus lourd. Le poids de la gravité nous tient. Et ça devient très compliqué de monter tous ces échelons. Et j'essaie de m'imaginer les soldats romains qui sont en train d'élever Jésus sur cette croix. Et en élevant Jésus, je pense qu'ils ne s'imaginaient pas une seule seconde qu'ils étaient en train d'élever l'humanité vers le ciel. Amen. Il montait cette échelle, finalement, vers le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé sur la croix qui symbolise cela? C'est le brigand qui se tourne vers Jésus et qui voit cette échelle et qui dit, qui parle à Jésus. Et Jésus dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Prends, monte avec moi. Monte avec moi. La croix nous élève. Elle nous fait accéder au ciel, au paradis. Elle nous fait accéder aux réalités spirituelles. Mais ne nous y trompons pas, il y a notre part à faire. Il y a ce chemin se saisit par la foi. Il nous faut saisir les promesses de Dieu. Elles sont là, mais il nous faut tendre le bras. Il y a cette table qui est dressée avec ce pain et ce vin. Tout est accompli. Et parfois, on peut aussi être dans notre vie chrétienne, dans cette attente que Dieu fasse tout. Mais il faut s'approcher de la table, saisir le vin, saisir le pain et le prendre. Donc Dieu attend aussi de nous que nous saisissions par la foi. Nous avons eu vendredi dernier Michel Viau qui est venu parler au groupe de jeunes, qui a parlé sur la foi, qui est un don de Dieu, mais en même temps, la foi devient ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Il y a un mouvement de la foi. Il y a aussi une mise en pratique. Il y a un échelon à saisir dans nos vies pour pouvoir grimper et accéder de plus en plus dans la présence de Dieu, dans l'action et voir le fruit de Dieu dans notre vie. Alors, soyons conscients que cette croix est là, ce chemin est ouvert. Alors, entrons-y. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre échelle. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le charpentier a pris sa croix et en a fait une échelle pour nous permettre d'atteindre le ciel. Alors, allons-y, montons, saisissons, prenons. Et une dernière chose que le charpentier a vue dans le bois de la croix, qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait être ? Pendant qu'on sent, je bois. Un pont. Non, c'est pas un pont. Mais c'est pas mal, le pont. J'ai déjà dit l'échelle pour relier deux points. Je fais un peu travailler ce matin. Parce que je vous avais dit que la foi, il faut saisir. Alors, si vous voulez le dernier point, il faut le saisir. Une table, oui. Une porte, oui. Jésus a dit, je suis la porte, en effet. Ça rejoint un peu le chemin et l'échelle, vous êtes d'accord? Je vous propose autre chose, mais on n'y pense pas d'abord, donc c'est pour ça que ce n'est pas la première chose à laquelle on pense. Mais vous allez voir pourquoi j'ai pris cette image. La dernière chose qu'on peut faire avec du bois, c'est un trône. Alors, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense, un trône. On pense à un trône en or, en marbre, massif, et tout ce que vous voulez. Mais pourquoi je prends l'image du trône? Parce que c'est une chose merveilleuse, parce qu'il symbolise le règne, et il symbolise l'autorité. C'est le symbole du pouvoir. Jésus dira à ses disciples, lorsqu'ils s'approchent de lui, avant qu'il monte au ciel, « Tout pouvoir », et en fait c'est la traduction littérale de « toute autorité », m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Ça me rassure parce que quand Jésus me demande d'aller faire de toutes les nations des disciples, je me dis, ah, il a quand même dit avant qu'il a toute autorité. Donc c'est dans son autorité que je peux faire des disciples. Ce n'est pas par mes propres forces. Très important de comprendre cela quand on s'approche de ceux qui ne le connaissent pas. Et bien au-dessus de tous les trônes de la terre, il y a la croix de Jésus-Christ. Cette affreuse potence est en fait le trône le plus solide de l'univers. Et c'est pour ça que j'ai pris cette image du trône, parce que le trône de Jésus-Christ est en bois. Il y a une sorte de faiblesse qui est là. La faiblesse de Dieu qui se fait homme dans cette humanité. Qui peut croire que cet homme est Dieu, que cet homme remet les péchés? Même les Juifs ne le croyaient pas. Les grands prêtres disaient, mais qui est celui-ci qui remet les péchés des gens? Mais ce n'est qu'un charpentier, c'est que le fils de Joseph. Il y a une faiblesse dans la croix. C'est une folie pour les hommes. Et Jésus dira, mais merci Seigneur, merci mon Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde, aux grands de ce monde. Mais tu l'as révélé à tes enfants. Et vous voyez, dans cette faiblesse apparente, il y a la puissance de Dieu qui se manifeste et la grandeur du règne de Dieu. Dans ce trône de bois, ce trône-là, il est au-dessus de tous les trônes, au-dessus de toutes les autorités, au-dessus de toutes les puissances. Il est au-dessus de toute autorité actuelle, qui ne sont plus des trônes aujourd'hui. Ce sont des lieux. Vous savez qu'on désigne maintenant les lieux d'autorité, les lieux de pouvoir par des lieux. On dit la Maison Blanche. On dit pour l'Angleterre, Downing Street. Lieu de l'exécutif, du pouvoir, de l'action. On dit le Kremlin. Au-dessus de tous ces trônes-là est le trône en bois de la croix. Amen. Voilà le Dieu que nous servons. Voilà le Dieu que nous suivons. Et quand tous les autres trônes seront passés, celui-là restera et continuera. Et ça, c'est la garantie de notre assurance éternelle. C'est la garantie de notre salut. 1 Corinthiens 15, « Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est le prémisse de ceux qui sont décédés. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang, Christ comme premier, prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ, c'est-à-dire tous ceux qui sont morts et nous, jusqu'à son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir ou autorité, toute puissance. Voilà comment ça termine. Ce trône-là va perdurer et Jésus-Christ ira remettre. Quand tous les trônes seront passés, quand tous les règnes seront terminés, quand viendra la fin, il remettra ce trône-là à son Père. Que la croix de Christ règne déjà dans nos vies, que son trône s'exerce déjà dans nos vies, parce que le jour viendra où son trône s'exercera sur tout, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Mais nous qui avons cru, nous disons aujourd'hui, encore et encore, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Étends ton règne, Seigneur, sur ma vie, mais sur cette nation, là où tu m'as placé. Continue à gagner les cœurs, continue à étendre ton règne. Tu es ressuscité, tu es monté au ciel, tu n'es plus dans le tombeau, tu es sur ton trône à la droite de Dieu. Amen. Alors la croix représente tellement de choses ce matin, en ce jour de Pâques. On en a relevé quelques-unes au travers des yeux du charpentier de Nazareth. Alors je vous laisse ces quelques questions ce matin devant votre Dieu, devant notre Seigneur. Avons-nous pesé notre âme dans la balance de la croix? Est-ce que j'ai conscience de la valeur que j'ai aux yeux de Dieu? Ou est-ce que c'est juste une information? Alors, on va s'approcher de la table de Stinson tout à l'heure et on veut s'approcher de Christ et te dire, Seigneur, je veux déposer tout ce qui veut dire que je n'ai pas de valeur parce que mon identité, elle est en toi. Seigneur, ce matin, je veux être dans cette balance, dans ta balance. Je veux réaliser que j'ai cette valeur. L'autre question, avons-nous déposé nos péchés dans le cercueil de la croix? C'est aussi ça la table de Sainte-Seine. C'est cette table où on s'approche de Jésus. On dit, Seigneur, tu vois, ça revient dans ma vie. Je ne veux plus. Peut-être que tu t'es arrêté de te battre contre certaines choses. Mais Seigneur veut dire aujourd'hui, tu peux encore te battre par rapport à ça. Je veux vraiment lâcher ça. Ça revient, je veux lâcher ça. Peut-être que je n'ai pas conscience aussi de certaines choses auxquelles je me suis habitué. Peut-être même que je ne m'en rends même plus compte. Alors Seigneur, je viens devant toi examine ma vie, Seigneur. Purifie-moi peut-être de ce qui ne te glorifie pas dans ma vie. Nous sommes encore en chemin. Et avons-nous aussi commencé à grimper à l'échelle de la croix ? Ça, c'est aussi une question que j'aimerais vous laisser. Où c'est que j'en suis au niveau de cette marche, ces barreaux ? Est-ce que j'ai arrêté de monter ? Est-ce que j'ai arrêté de saisir ? Et puis surtout encore ce matin, inclinons-nous devant ce trône. Ce trône sanglant du calvaire qui nous présente l'amour de Dieu, notre Rédempteur, que nous puissions vraiment totalement, encore ce matin, plier le genou devant ce règne. Dire que ce règne est là pour toujours et pour jusque dans l'éternité et que nous voulons le voir grandir dans nos vies et autour de nous. Alors je vais juste prier pour remettre ceci. Merci Seigneur pour cette croix qui se lève et qui se dresse dans nos vies. Cette croix qui était un signe de malédiction, de condamnation. Merci Seigneur, parce que tu as pris notre malédiction, notre condamnation. Et ce matin, nous voulons tout à nouveau, pas seulement nous rappeler de ce que tu as fait, mais le vivre encore aujourd'hui. Tu nous appelles à vivre cette réalité. Ce n'est pas seulement de l'information, mais nous voulons vivre cette transformation qui vient de toi. Alors Seigneur, ce matin, dans ce souvenir de ce jour, dans la joie aussi de la réjouissance de ce jour, nous voulons vraiment saisir tout ce que tu as pour nous ce matin. Merci pour ton Église qui est debout, qui est toujours là après 2000 ans et qui sera toujours là jusqu'à ton retour. Et merci parce que nous participons à cela. Et en tant qu'Église, nous voulons nous tenir fermes et debout face à tout ce qui veut détruire ton Église. Et nous croyons, Seigneur, que ton Église, même les portes de l'enfer, ne prévaudront point contre elle. Elle restera, elle sera forte parce que toute la puissance vient de toi. Et dans notre faiblesse, nous te disons, viens Seigneur Jésus, viens au secours de notre faiblesse. C'est toi qui es notre force, c'est toi qui es notre puissance, c'est toi qui es notre salut, c'est toi qui es notre rédemption. Que toute gloire te revienne. Amen. Je vous invite à prolonger ce moment en prenant ce repas. Et je vais vous proposer qu'on le prenne d'une manière un peu différente ce matin. Il y a des petites tables tout autour de cette salle. J'aimerais qu'on puisse se lever et qu'on, tout à l'heure, qu'on puisse se mettre autour de ces tables par petits groupes de 10, 15, en fonction, voilà, et qu'on puisse se prendre ce repas ensemble, comme le corps de Christ, en souvenir à la fois de ce que Dieu a fait, mais de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et j'aimerais vraiment qu'on puisse s'approcher ensemble de ces tables avec ces questions peut-être qui ce matin résonnent en vous, mais peut-être d'autres, et qu'on puisse juste prier ensemble autour aussi de ces tables. Ça vous va ? Et je vous propose que pour finir ce temps, on prenne un chant. Comme ça, quand le chant viendra, vous pourrez venir vous rasseoir à ces tables, à vos places, pardon. Donc je vous propose maintenant spontanément de vous lever et de prendre place autour de ces trucs. Et après, dès que tout le monde sera installé, je vous lirai juste quelques passages par rapport à ça. Il y a aussi une